Nous abordons maintenant une autre question relative aux cessions de parts ou d'actions, qui est celle de la détermination du prix par voie d'experts. Et pour cela, je suis avec une personne particulièrement bien placée pour en parler, puisqu'il s'agit de Dominique Ledouble, expert comptable, commissaire aux comptes. Et Dominique, je sais que tu es souvent expert dans des opérations de cession de parts ou d'actions. Alors, de quoi parle-t-on ici? On parle d'une expertise qui peut être demandée par les parties par voie purement contractuelle. C'est l'article 1592 du Code civil. Par voie purement contractuelle, je veux dire par voie purement volontaire. Et puis, on parle d'une autre expertise qui pose un certain nombre de problèmes. Et ce que nous allons dire est d'ailleurs à prendre avec une certaine précaution, parce qu'il est possible que les choses changent assez rapidement et que le texte dont nous allons parler soit modifié. Il y a des textes en préparation, une loi qui habiliterait le gouvernement à modifier ce texte. Je veux parler de l'article 1843-4 du Code civil. Alors ce texte, que nous dit-il? Il nous dit que dans tous les cas où sont prévues la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre les parties, par le juge, en la forme des référés et sans recours possible. Donc nous avons un expert qui va intervenir pour nous dire comment valoriser des parts ou des actions. Ce texte pose des problèmes qui viennent de ce que, initialement, le texte était là pour débloquer des situations dans des hypothèses assez simples. Une clause d'exclusion, par exemple, je veux vous exclure de la société, une clause me le permet, sauf que, comme nous avons dit, c'est une hypothèse de cession forcée. Si nous devons maintenant nous mettre d'accord sur le prix, vous ne vous laisserez pas exclure, vous allez demander un prix très élevé. Si on attend que nous soyons d'accord sur un prix, l'exclusion ne marchera pas. Il faut donc qu'un tiers intervienne. Il n'y a pas d'accord entre nous. Un tiers intervient pour dire quel est le prix. Autre hypothèse, refus d'agrément. Vous voulez vendre vos actions à un tiers, il y a une clause d'agrément, la clause joue, nous nous opposons à ce que vous vendiez à ce tiers, mais cela vous ouvre un droit de rachat, à quel prix? Là encore, si nous ne nous mettons pas d'accord, c'est un expert qui va intervenir pour définir ce prix. Alors, le problème que pose ce texte vient de la jurisprudence, ou du moins de l'application qui a été faite de ce texte par la jurisprudence. Dominique, est-ce que tu peux nous synthétiser rapidement ce qu'a dit la Cour de cassation, ou la manière dont la Cour de cassation a appliqué ce texte?
Oui, la Cour de cassation, à partir des années 2007-2008, où on a vu fleurir la jurisprudence sur cet article qui, jusqu'ici, n'avait pas suscité énormément de décisions, est venu du fait que la Cour de cassation, pour faire simple, a dit « les parties ne peuvent pas dire à l'expert quelle méthode utiliser. Elles ne peuvent pas lui dire au moment où elles le saisissent, et elles ne peuvent pas non plus dire à l'expert « nous avons signé un pacte d'actionnaires, nous avons quelque chose dans les statuts qui dit que quand quelqu'un ou entre ou sort de la société, eh bien, il sort à un prix qui est déterminé en fonction d'une formule précise ». Bon. La Cour de cassation a dit non, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de référence. Vous devez laisser totalement l'expert libre de faire son travail d'évaluation, bien sûr en prenant connaissance des dispositions qui ont été négociées ou fixées par les parties, mais l'expert ne peut pas en être tenu. Il faut qu'il garde sa liberté de manière à ce que le prix qu'il détermine soit le plus juste possible. Et c'est cette façon de poser les choses qui, évidemment, pose un certain nombre de problèmes, dès lors que, dans beaucoup de sociétés fermées, vous avez des formules qui vous disent « Monsieur Dondero, vous voulez devenir associé chez nous, ben vous rentrez à tel prix, et le jour où vous sortirez, pour une raison volontaire ou involontaire, vous sortirez suivant la même formule. Bon. » Et c'est ça qui ne marche plus. En tout cas, ça ne marche pas automatiquement, puisque la Cour dit l'expert, et l'expert fait ce qu'il veut. Je précise qu'on parle d'un expert, mais ce n'est pas un expert au sens judiciaire du terme. Un expert judiciaire, il fait un rapport, et le juge fait ce qu'il veut de l'expert, du rapport de l'expert. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le tiers qui est choisi, son avis s'impose au parti. Donc il a dit « ça vaut 100 euros l'action », et bien ça vaut 100 euros l'action. Hein. Sauf erreur grossière, dit le texte, ou en tout cas la jurisprudence, sauf erreur grossière de la part du praticien. Donc, si vous voulez, c'est un vrai jeu. Hein, puisque on dit à l'expert, écoutez, on n'est pas d'accord sur le prix, fixez-nous le prix, il fixe le prix. Voilà.
Concrètement, ça veut dire qu'on fait ensemble un pacte qui dit que si l'un d'entre nous quitte la société, il quittera avec un prix calculé de la manière suivante, voire avec un prix déjà déterminé par avance. Tant que la cession n'est pas faite, parce que la jurisprudence, là, admet que l'expert n'intervient plus, tant que la cession n'est pas faite, l'une des parties peut saisir l'expert, puisque le texte parle de contestation et la jurisprudence le lit comme contestation sur la valeur qui est retenue aujourd'hui par les parties. Tant que la cession n'est pas faite, on peut faire intervenir l'expert qui va donner un prix sans être tenu. Il peut suivre la méthode des parties, mais il peut aussi ne pas la suivre. Il est libre. Et de ce fait, ça veut dire qu'on perd beaucoup en prévisibilité parce qu'on prévoit des clauses de valorisation qui finalement ne servent plus à grand-chose. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que ces clauses de valorisation, elles peuvent s'expliquer par le fait que d'autres engagements ont été pris en contrepartie. Et tout ça, finalement, l'expert va déséquilibrer tout ça, puisque l'expert va donner un prix qui va lui sembler être le juste prix, mais sans tenir compte des clauses qui avaient été prévues par ailleurs. Il faut préciser que cette jurisprudence s'applique non seulement aux clauses prévues dans les statuts, mais aussi aux clauses prévues dans des pactes ou dans des accords de type promesse, par exemple. C'est une jurisprudence qui ne se limite pas aux seules clauses statutaires. Bien, je crois que nous avons dit l'essentiel sur le sujet. Je te remercie, Dominique.
T'en prie.